Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La Chine va appliquer des droits de douane surélevés sur 34 milliards de dollars de produits en provenance des États-Unis. Pékin l'a annoncé ce matin, la mesure entrera en vigueur à partir de vendredi minuit, le jour même où des droits de douane équivalents seront appliqués par Washington à Pékin. C'est un nouvel acte dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump et justifié par le président américain par la volonté de réduire le déficit commercial avec ses partenaires dans le monde. Lui aussi se cale sur l'agenda diplomatique modelé par les États-Unis. Après la sortie de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien en mai dernier, Hassan Rouhani, le président iranien, est en Autriche aujourd'hui, à Vienne, là où a été scellé en juillet 2015 l'accord signé entre Téhéran et six grandes puissances, la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Accord bien précaire aujourd'hui, comment continuer à le faire vivre sans les Américains? C'est la question que vient poser le président iranien à Vienne. Les précisions de notre correspondante Isorias.
L'offensive diplomatique continue pour Hassan Rouhani. Après deux jours en Suisse, le président iranien fait étape en Autriche, le pays qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. Depuis le retrait des États-Unis, Téhéran demande des garanties aux autres signataires, notamment aux Européens. La République islamique l'a répété, elle ne se maintiendra pas dans l'accord si ses intérêts ne sont pas assurés. Ses intérêts économiques notamment, puisque de nombreuses entreprises étrangères, dont certaines autrichiennes, craignent d'être frappée par des sanctions américaines si elle continue de commercer avec Téhéran. Cette visite sera donc l'occasion de rassurer l'Iran et de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Hassan Rouhani se rendra d'ailleurs à la Chambre de commerce autrichienne en fin d'après-midi. Mais avant cela, il rencontrera le président puis le chancelier autrichien, Sébastien Kurz. Ce dernier a prévenu qu'il serait question de l'accord, mais aussi des droits de l'homme et du rôle régional de l'Iran.
Isorias à Vienne pour France Culture. L'Autriche qui s'interroge sur l'avenir de l'accord nucléaire iranien, sur la question migratoire également, Vienne menace de prendre de nouvelles mesures pour protéger ses frontières. Après l'accord conclu avant-hier dans l'Allemagne voisine, les conservateurs de la CDU et de la CSU qui étaient en conflit depuis des semaines ont décidé de renvoyer les demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs dans l'Union européenne vers ce premier pays d'arrivée ou bien, à défaut, de les refouler vers l'Autriche dans le cadre d'un accord bilatéral. Mais l'Autriche, gouvernée par l'extrême droite et les conservateurs, a expliqué hier qu'elle ne signerait aucun accord qui se ferait à son détriment. À la une, en France, un objectif zéro artificialisation des sols. Plus question de construire des centres commerciaux, des routes ou des lotissements sur des zones naturelles ou agricoles sans compenser, sans créer de nouveaux espaces naturels. C'est ce qu'explique ce matin Nicolas Hulot dans un entretien aux Parisiens. Avant de détailler cet après-midi à Paris le plan du gouvernement pour la biodiversité, le ministre de la Transition écologique veut en finir, notamment d'ici à 2025, avec les rejets plastiques dans l'océan, ce qui inclut la suppression progressive de 12 produits en plastique comme les pailles, souvent retrouvés sur les plages et en mer. La 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les dossiers à caractère terroriste, va se pencher à partir d'aujourd'hui sur le site djihadiste Ansar el Haq, dont le nom signifie les partisans de la vérité, un site qui véhiculait avant sa fermeture des revendications d'attentats et des appels au djihad. 4 hommes sont poursuivis pour y avoir contribué, dont Farouk Ben Abbès, présenté comme une figure de la mouvance islamiste radicale depuis de nombreuses années, Florence Turm.
Son nom traverse effectivement plusieurs dossiers terroristes, mais au demeurant, Farouk Ben Abbès n'a jamais été condamné en France, si ce n'est pour non-respect d'assignation à résidence. Il apparaît pour la première fois après l'attentat du Caire en mai 2009, attentat dans lequel une jeune lycéenne française, Cécile Vanier, avait été tuée. Farouk Ben Abbès fait partie des 7 suspects arrêtés en Égypte. Lors des interrogatoires où il affirme avoir été torturé, il aurait évoqué un autre projet d'attentat en France et parmi les cibles potentielles, le Bataclan. Mais Farouk Ben Abbès va bénéficier d'un non-lieu, d'abord en Égypte, puis en France, dans ce même dossier. La France qui se retrouve ainsi à devoir lui verser une indemnisation pour sa détention provisoire et qui se trompe dans le calcul en lui octroyant 15 000 euros de trop. Des années plus tard, au lendemain des attentats du 13 novembre, il est assigné à résidence, considéré comme proche des frères Klein, les voix de la revendication qu'il a connue dans la bande de Gaza. Farouk Ben Abbès devient ainsi l'un des plus anciens assignés à résidence de France et d'ailleurs à l'origine d'une QPC. C'est une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet. En juillet 2016, nouveau raté de l'institution française. En passe d'être expulsé vers la Tunisie, on le rattrape in extremis sur le tarmac car il est aussi sous le coup d'un contrôle judiciaire et d'une interdiction de sortie du territoire précisément pour le procès qui s'ouvre aujourd'hui, où il est accusé d'avoir posté des centaines de messages de propagande sur le site Ansarelak, avec sur les forums de discussion un slogan en guise de signature, le djihad médiatique est la moitié du combat.
Et le procès va durer jusqu'à vendredi. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, appelle au calme à Nantes après les violences urbaines de la nuit dernière dans des quartiers sensibles de la ville. Des violences qui ont été provoquées par la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle policier. Dans la lignée de la ville de Strasbourg qui a interdit le tabac dans ses parcs, la ville de Paris va expérimenter une mesure semblable dans 4 de ses jardins. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil de Paris. La mairie de Paris qui doit annoncer ce matin un nouveau service de véhicules électriques dans la capitale, Renault et PSA se lancent sur le marché. Après le fiasco d'Autolib, Paris s'est empressé de démarcher de nouveaux constructeurs après la résiliation du contrat avec le groupe Bolloré. Et ce nouveau service d'autopartage se veut plus adapté à la mobilité des Parisiens, Mélodie Pépin.
Fini les bornes, on passe au free-floating, le service flottant si on traduit, pouvoir louer une voiture électrique partout dans la capitale et la rendre n'importe où. La concurrence se bouscule déjà, Renault doit annoncer son projet ce matin, PSA l'a fait hier, il prévoit 500 véhicules électriques dans un premier temps au troisième trimestre 2018. La mairie de Paris vise 20 000 voitures en autopartage au total, 5 fois plus que la flotte Autolib. Où pourront-elles se garer ? C'est une des questions. Des places de stationnement que devront payer PSA et Renault, entre 300 et 500 euros par véhicule par an. Plus question donc de passer par une délégation de services publics pour éviter que la ville et donc les contribuables n'aient à payer la facture en cas de déficit. C'est l'autre interrogation. Ce modèle d'autopartage peut-il faire des bénéfices ? Aujourd'hui, rares sont ceux qui y parviennent. Quid aussi des actes de vandalisme qui ont contribué à la perte d'Autolib et au retrait sur le marché français des vélos flottants comme Gobi Bike.
Le temps de ce mercredi 4 juillet ensoleillé sur une grande partie du pays, plus orageux cet après-midi de l'Aquitaine au Nord-Pas-de-Calais, 19 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange à cause des orages. Et au meilleur de la journée, il fera entre 21 et 26 degrés près de la Manche et sur la façade atlantique, 27 à 33 degrés partout ailleurs. C'est la fin de cette édition. Tous les journaux ce matin ont été réalisés par Yacine Bouzard et Martin Descloseaux. Au prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Stanislas Vazac.